Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Une centaine de morts en Haïti. L'ouragan Matthew se dirige maintenant vers les côtes américaines où 2 millions de personnes ont reçu un ordre d'évacuation. On fait le point avec Frédéric Carbone dans un instant. Le Conseil de sécurité de l'ONU choisit à l'unanimité Antonio Guterres au poste de secrétaire général. L'ancien Premier ministre portugais s'est exprimé ce soir à Lisbonne. Nous l'écouterons. On vote demain au Maroc pour des élections législatives incertaines. Les islamistes au pouvoir affrontent notamment un parti proche du roi Mohamed VI. Nous en parlerons avec notre invité, l'historien Pierre Vermeuren, spécialiste du Maghreb. Les heures passent et le bilan du passage de l'ouragan Matthew sur les Caraïbes ne cesse de s'alourdir. On dénombre déjà 108 morts en Haïti, chiffre provisoire car la zone touchée, le sud du pays, reste en partie inaccessible. Matthew remonte actuellement vers les États-Unis. Il pourrait frapper la Floride la nuit prochaine. On retrouve notre correspondant à Washington, Frédéric Carbone. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors Frédéric, au total, environ 2 millions d'Américains ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile sur le littoral atlantique américain.
Absolument, parce que si l'on ne parle que de ce qui se passe en Floride, on est dans une des régions les plus densément peuplées des États-Unis, une bande de 400 kilomètres entre Miami et Jacksonville. La seule incertitude, c'est est-ce que Matthew va rentrer profondément à l'intérieur des terres. La Floride, c'est sûr, va être frappée. Donc, la consigne de partir devient presque un ordre. Vous pouvez être tué, lance le gouverneur Rick Scott, vous n'aurez plus de courant, vous n'avez aucune raison de rester. Après, partir, oui, mais où ? Il y a les refuges ouverts dans les comtés en état d'alerte, mais ils ne sont pas si nombreux, environ 150, et puis il y a la mise en sécurité à l'intérieur des terres. Les autorités de Floride recensent toutes les chambres d'hôtel disponibles. Elles sont tombées d'accord avec Airbnb pour l'accès libre et gratuit à ces logements dans les jours qui viennent. Le temps presse en tout cas. En Floride, ce sont les dernières heures vraiment pour prendre la route. Et les aéroports Miami, Orlando sont fermés.
Et puis Frédéric, cet ouragan frappe un pays en pleine campagne présidentielle. Et Matthew a forcément un impact sur le duel Trump-Clinton.
Oui, absolument, parce qu'on est dans l'état épicentre de la bataille électorale du 8 novembre et vous avez un gouverneur républicain qui a déjà fortement reproché à Barack Obama de ne pas avoir mobilisé suffisamment les moyens fédéraux après la tuerie d'Orlando et qui aujourd'hui fait savoir qu'il a demandé de l'aide préventive des hommes et des produits essentiels, de l'eau, de la nourriture. La Maison-Blanche a d'ailleurs répondu favorablement. Donc les deux responsables directement en première ligne sont des proches soutiens des candidats. Quant aux candidats eux-mêmes, Donald Trump envoie ses prières aux habitants de Floride. Hillary Clinton, de son côté, relaie les appels à l'évacuation et elle a renoncé finalement à acheter, comme elle l'avait prévu, des spots de pub sur la chaîne Météo pour toucher le maximum d'audience. Mais vous le voyez, comme Sandy en 2012, Matthew, cette année, aura un impact sur la campagne. La saison électorale est aussi la saison des ouragans.
Frédéric Carbone en direct de Washington, merci. Le Portugais Antonio Guterres a franchi aujourd'hui une nouvelle étape sur la route du secrétariat général de l'ONU. Il a obtenu le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité pour succéder officiellement à Ban Ki-moon. Il lui faut encore l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le vote prévu la semaine prochaine n'est a priori qu'une simple formalité. Âgé de 67 ans, Antonio Guterres a dirigé le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, pendant 10 ans jusqu'à l'année dernière. Socialiste et fervent catholique, il a aussi été le Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002. Et c'est à Lisbonne qu'il a fait sa première déclaration après le vote favorable du Conseil de sécurité. Marilyn Darcy.
Antonio Guterres a eu recours à un langage en accord avec ses convictions à Lisbonne après sa désignation par acclamation à l'ONU, le langage du catholique pratiquant qu'il est. Il a d'abord exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont soutenu sa candidature avant de remercier le Conseil de sécurité de l'ONU qui a été capable d'agir en unité et de manière consensuelle pour prendre une décision rapide. Il a souhaité que ce soit le symbole de l'action future du Conseil. Guterres a ensuite dit qu'il se sentait très humble.
L'humilité de celui qui fait face à des défis énormes dans un monde qui est perturbé par des problèmes très très sérieux, mais aussi l'humilité pour pouvoir servir, et surtout servir les plus vulnérables, les victimes des conflits, du terrorisme, les victimes de la violation des droits, de la pauvreté ou des injustices de notre monde.
La nomination du futur secrétaire général de l'ONU a soulevé une vive émotion au Portugal. Émotion et fierté. On considère qu'il est l'homme de la situation, humaniste et courageux, à la hauteur de ce qu'il attend.
Marilyn Darcy, notre correspondante au Portugal. L'expérience islamiste va-t-elle se poursuivre au Maroc? C'est l'enjeu des élections législatives prévues demain dans le pays. Près de 16 millions d'électeurs doivent élire 395 députés. Le PJD au pouvoir à Rabat espère obtenir un nouveau mandat. Mais la marge de manœuvre du vainqueur restera limitée par la toute-puissance du roi du Maroc, Mohamed VI. Invité de ce journal, l'historien Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, spécialiste du Maghreb. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Vermeren, alors y a-t-il un suspense autour de ces élections législatives au Maroc ?
Oh, y a toujours un suspense parce qu'en plus, les sondages ne sont pas autorisés dans ces élections. Cela étant dit, on sait que le paysage politique marocain est assez éclaté, qu'il est dominé apparemment par deux formations. D'une part, les islamistes du PJD qui dirigent le gouvernement depuis 5 ans, et d'autre part, le PAM, le Parti Authenticité et Modernité, qui a été créé par un des proches du roi à la fin des années 2000. Donc, ces deux formations ne devraient pas remporter, bien sûr, la majorité absolue. Elles devraient avoisiner entre 10 et 20% des voix chacune. Et puis ensuite, les autres formations secondaires, mais vous voyez, pas si secondaires que ça, vont se partager le reste.
Donc, le parti vainqueur devra, en fait, former une coalition, c'est ça ?
En tout état de cause, il y aura une coalition assez large et probablement même assez étonnante, comme celle que l'on connaît depuis 5 ans, qui, parmi d'autres formations, associe l'ancien parti communiste, le PPS, et le PJD, le Parti de la Justice et du Développement, qui est le parti des frères musulmans au Maroc.
Alors justement, on présente le PJD comme un parti islamiste. Est-ce que ce parti a islamisé la société marocaine depuis son arrivée au pouvoir en 2011 ?
Le terme islamisé est compliqué, mais la société marocaine, elle est islamisée depuis bien longtemps. Elle est même assez traditionnelle. Elle a un arsenal de lois qui souvent d'ailleurs, paradoxalement, remontent à l'époque de Lyoté et qui sont des lois d'application de la charia, de respect du jeune, du couple, de contrôle de la sexualité, etc. Donc de ce point de vue-là, le PJD n'avait pas grand-chose à faire. C'est plutôt la tonalité des discours et notamment les discours du Premier ministre qui ont un petit peu changé les choses, notamment tous ces discours sur la question de la débauche, sur l'homosexualité. Donc il y a eu effectivement ces thèmes qui ont été abordés, mais sur le fond, on peut dire que la société marocaine reste conservatrice, en tout cas au moins dans les discours, très religieuse, et que les choses, de ce point de vue-là, on peut changer. Il faut rappeler que le Maroc est une monarchie dirigée par un roi qui est un chef religieux. C'est donc un régime politique à la fois constitutionnel et religieux, et qu'il est le chef de l'islam sunnite pour tous les Marocains, y compris pour les islamistes. De ce point de vue-là, il n'y a pas de changement.
Alors, en face, il y a ce parti Authenticité et Modernité. Quel est son positionnement ?
Alors, le positionnement est assez complexe parce que c'est un parti attrape-tout qui avait été créé par le palais pour renverser la scène politique à la veille des printemps arabes. Les printemps arabes n'ont pas permis à ce plan de se réaliser lors des élections anticipées de 2011. Comme toujours, la monarchie, depuis les années 60, rêve d'avoir un parti qui soit sa courroie de transmission pour diriger le pays. C'est un peu la mouture du PAM actuellement. Maintenant, évidemment, il se positionne à la fois sur le nationalisme, mais aussi sur la modernité, notamment face aux islamistes. Il veut se montrer comme le champion de la coopération avec l'Europe, mais surtout le champion de la résistance à ce qu'ils appellent l'obscurantisme. Un soutien, bien sûr, inconditionnel au roi, et aussi, bien sûr, un parti qui vise à être dirigé et en tout cas à obtenir le suffrage de l'étroite élite, j'allais dire occidentalisée, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui a fait des études à l'étranger, par exemple, donc ce qu'on appelle les modernistes, les libéraux, et donc ces gens-là sont censés, bien sûr, transformer la société, investir, et le palais mise beaucoup sur eux pour résister aux islamistes.
Et c'est aussi un parti qui insiste sur la condition féminine.
Absolument, c'est une histoire de positionnement, c'est très compliqué la question du féminisme au Maroc parce qu'il y a un féminisme islamiste aussi, il y a aussi un conservatisme de toute la société, donc c'est très délicat, mais effectivement ça fait partie du registre, d'autant plus que le parti rappelle toujours que c'est Mohamed VI qui a voté un code de la famille plus libéral au milieu des années 2000.
Alors justement, Pierre Vermeren, le roi Mohamed VI est le chef de l'État, et il est aussi le commandeur des croyants, finalement c'est lui qui dirige de facto le Maroc ?
Oui, c'est évident qu'il est à la tête constitutionnellement et religieusement d'ailleurs de tous les pouvoirs. Il est l'instance qui dirige la justice, au nom de laquelle elle est rendue en tout cas. Il préside, il convoque quand il veut le Conseil des ministres. Il a l'initiative des lois. Il a sous son contrôle les ministères de souveraineté, notamment l'intérieur, l'armée et les affaires étrangères. Donc c'est évident que son rôle est absolument central, sans parler des questions religieuses et économiques. Donc la marge de manœuvre laissée au gouvernement n'est pas nulle, mais elle est évidemment secondaire.
Pierre Vermeren, merci d'avoir été l'invité de France Culture. Ce soir, je renvoie à votre histoire du Maroc depuis l'indépendance, dont la nouvelle édition vient de paraître à La Découverte. François Hollande n'est pas encore candidat à sa réélection, mais il se préoccupe de l'avenir de l'Europe. Le président qui a pris la parole ce soir à l'occasion du 20e anniversaire de l'Institut Jacques Delors, Notre Europe. La crise migratoire oblige les dirigeants politiques à évoquer la protection du territoire européen. François Hollande l'a fait en revenant également sur le Brexit. C'est un reportage de Bruno Cadenne.
Les frontières ont été le sujet principal de cette intervention. Les frontières extérieures de l'Union européenne qu'il faut protéger. Et ce, le jour de l'inauguration du corps européen des gardes-frontières déployé en Bulgarie, François Hollande.
Nous avons des frontières extérieures. C'est notre responsabilité de les garantir. Notre bien commun, c'est la frontière extérieure. Et pour qu'elle puisse être respectée, nous devons avoir des moyens qui doivent être dévoués, dédiés à cette obligation. Notre sécurité, c'est aussi de faire en sorte que ceux qui viennent jusqu'à nous puissent être enregistrés et que les réfugiés puissent être dirigés là où ils sont attendus, parce que c'est le droit d'asile. Mais en revanche, que les migrants puissent être ramenés, réinstallés dans leur pays d'origine, parce qu'ils ne peuvent pas faire valoir de droit à venir sur le territoire européen. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect. Et s'il n'y a plus de cohésion entre pays européens, il n'y a plus d'Europe.
Les frontières de l'UE qui devraient bientôt s'arrêter à Calais avec le Brexit. Et là aussi, pour le chef de l'État, il faut que l'Europe soit ferme.
Le Royaume-Uni a décidé de faire un Brexit, je crois même un Brexit dur. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout de la volonté des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Et nous devons avoir cette fermeté. Il faut qu'il y ait une menace, il faut qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un prix. Sinon, nous serons dans une négociation qui ne pourra pas bien se terminer.
François Hollande, dans les pas de Jacques Delors, a également défendu l'idée d'une identité européenne.
Bruno Cadenne, merci. Le pessimisme de l'INSEE pour l'économie française. L'Institut a abaissé sa prévision de croissance pour 2016, 1,3% au lieu des 1,6% prévus en juin. L'explication, c'est le recul de l'économie au deuxième trimestre, moins 0,1%. Le premier recul trimestriel depuis l'hiver 2013. Le gouvernement explique ce trou d'air par les grèves du printemps et les attentats terroristes de l'été. Ça, alors si la France patine, l'Allemagne, elle, s'envole. Nouvelle illustration aujourd'hui, un peu plus de 6 milliards d'euros de baisse d'impôts en 2017 et 2018. Voilà ce que prévoit la grande coalition au pouvoir à Berlin, un cadeau fiscal destiné à soulager plus particulièrement les classes moyennes. Les explications de notre correspondant en Allemagne, Cyril Sauvageau.
L'État fédéral se devait de faire un geste envers les contribuables. Avec des comptes à l'équilibre, un excédent budgétaire record, 12 milliards d'euros en 2015, les caisses sont pleines, mais les ménages en profitent peu. L'impôt sur le revenu en Allemagne est l'un des plus élevés en Europe. Dès l'année prochaine, la Grande Coalition prévoit donc des baisses d'impôts à destination des classes moyennes. 2,5 milliards d'euros la première année, 6,3 milliards jusqu'en 2018. À moins d'un an des élections fédérales, ce cadeau fiscal n'est pas dénué d'arrière-pensée. Mais la CDU, le parti d'Angela Merkel, a dû convaincre ses partenaires de la Grande Coalition, les sociaux-démocrates du SPD, pour qui l'urgence était plutôt de soutenir les ménages les plus pauvres, ceux qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. Pour cela, la Grande Coalition prévoit une hausse de l'allocation destinée aux familles modestes. Le plan gouvernemental n'est pas encore officiellement adopté, le temps presse, il doit être rapidement soumis au vote du Bundestag pour pouvoir être appliqué dès 2017.
Cyril Sauvageau, merci. La météo demain, un temps sec et calme sur tout le pays, ensoleillé au sud, nuageux et frais au nord, de la Bretagne à l'Alsace. Les températures maximales sont en petite baisse, 14 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 à 24 au sud de la Loire. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.